Quelle heure est-il?
C'est l'heure de la radio.
Radio Campus. 88.3.
Alors c'est la fin?
Non. C'est le commencement. Le monde ne sera plus jamais.
Défendre. J'ai un cric, un brolic, un pompe, un schlag pour te détendre. Tu seras à qui t'en prendre. Aucun décret, aucune loi, aucune convention ne pourra calmer les tensions entre eux. Bombers noirs, brassards rouges, gyrophares bleus. Et nous, bon pour la tôle, les halls et bientôt les égouts. Tout ça se passe dans vos rêves. Ici c'est marche enroulée du cul ou crève. Les sociologues, les politologues qui viennent chez nous pour acheter de la drogue appellent ça créer du lien social pour pallier un comportement bestial chez le plus proche cousin de l'animal.
Chez le plus proche cousin de l'animal.
Affreux, bête et dangereux. Comme nous, il vous tue, je. Affreux, bête et dangereux. Autant la jouer frangeuse. Affreux, bête et dangereux. Comme nous, il vous tue, je. Affreux, bête et dangereux. Autant la jouer frangeuse.
Nègre à capuche, arabe à kéfier, c'était déjà planifié. Toi qui cherches encore à qui te confier, tes petits problèmes font chier. Nous sommes des fautes de français, les extra-européens sont tenus à être parfaits. Qui sont les auteurs des faits? Viol en réunion, de l'article 1 de la Constitution. Séquestration avec violence, du principe de présomption d'innocence. Proxénétisme aggravé.
En 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenche la tuerie au palais de la Syrie.
De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuite.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue. Plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
Le mardi à 19h sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, c'est à bâton rompu qui démarre, magazine d'info tous les mardis de 19 à 20h et chaque deuxième mardi du mois, les amis du monde diplomatique d'Orléans viennent en studio décrypter avec nous l'édition du mois du Diplo.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Alors pour parler de l'édition du mois de mars, Boris est là, bonsoir Boris.
Bonsoir.
Boris, en grand connaisseur des pays de l'Est. Bah, et
justement,
de...
non, pas trop, parce que là j'ai découvert plein de trucs sur l'Ukraine.
Oui, ah oui, dans cet article-là en tout cas, c'est vrai. Mais en tout cas, ouais, on en avait déjà parlé hein, du brassage des populations.
Voilà.
C'est de ça que parle cet article sur l'Ukraine. Le titre c'est « Une Ukraine de plus en plus homogène hein. ». dit l'article. Pierre, bonsoir.
Bonsoir.
Dans l'article que tu as choisi, on parle de l'hypocrisie. Hein, j'ose le mot. L'hypocrisie du gouvernement français, des gouvernements européens en tout cas.
Ah oui, ben on pourrait juste s'arrêter là. On
parle
de l'hypocrisie.
Ouais,
c'est pas comme ça que je l'aurais annoncé, mais voilà. On parle de l'hypocrisie, on parle du réchauffement climatique, ouais. Et puis on parle des solutions qu'il y a ou qu'il n'y a pas.
Oui, non, mais c'est voilà. Hypocrisie parce que tous ces gouvernements, au lieu de parlent plutôt d'adaptation plutôt que de traiter vraiment le
exactement c'est le ça, problème. On va voir si l'adaptation finalement ça va faire écho. J'aurai l'occasion d'en parler avec un autre article qui a été présenté en décembre qui s'appelait les limites de l'adaptation. En fait, c'est une suite de ce de ce débat-là.
Bonsoir Victor.
Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Avec toi, nous allons parler de sages.
Oui, les sages du Conseil constitutionnel, bah effectivement. Oui.
Dans le rôle de se prononcer sur la conformité de la loi.
À la Constitution.
À la Constitution, mais on se rend compte que, surtout sur la loi sur l'immigration, qu'ils sont plutôt de l'avis du gouvernement. Donc
c'est
les
ça.
Sages qui restent sages, c'est le titre de l'article. Henri, enfin, bonsoir Henri.
Bonsoir.
Avec toi, un tour de ce diplôme, sur le sommaire du diplôme de mars.
Oui, figure-toi que celui-là aussi, il est riche.
Ben oui, évidemment.
tu serais étonné.
Évidemment.
Mais la preuve en est, c'est que le diplôme, dans ce numéro donc du mois de mars 2024, aborde beaucoup de sujets. Moi, j'ai été attiré notamment par un article qui débute en première page, « Comment l'extrême droite laboure la campagne ».
Absolument.
Mmh. Je ne savais pas que ce parti était un parti agraire. Mais bon, et les européennes, ça ne vous aura pas échappé, arrivent. Et donc, il faut bien se présenter, notamment vis-à-vis du monde rural, où, c'est vrai, n'en déplaise, le Front National, ou le Rassemblement National maintenant, eh bien, a un certain crédit. Voilà, ils ont des électeurs. Et d'ailleurs, Philippe Baquet, qui est l'auteur de cet article, parle des exactions de M. Papacito. Alors, comme ça, il aurait plutôt un rôle assez sympathique. On se dirait, tiens, c'est un dessin animé pour enfants. Pas n'importe lesquels, en tous les cas. Parce que ce monsieur est un militant d'extrême droite. Et qui a eu maille à partir avec un maire d'une commune rurale qui l'a menacé parce qu'il prétendait que ce maire avait choisi de privilégier un riche propriétaire anglais plutôt qu'un éleveur du coin et que pour éviter que le propriétaire anglais ne soit un peu dérangé dans sa propriété, et le chemin qui conduisait à la fois à la propriété de ce riche anglais et aux terres de cet agriculteur français, eh bien, le chemin a été privatisé. Alors, tout n'est pas à jeter dans cette critique, mais c'était... on a vu comment le Front National joue le franco-français, le populisme, la démagogie, et donc avec des méthodes qui tendent, c'est un exemple, mais avec des méthodes qui tendent à opposer la France des villages, porteur de traditions saines, à celle des villes polluées par le multiculturalisme. C'est sûr que dans certains villages, on est un peu entre soi depuis longtemps. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de s'inquiéter pour ces populations-là. Et donc, le Front National surfe un peu là-dessus. Et donc, dans son article, Philippe Baquet rappelle que, effectivement, à la présidentielle de 2022, un tiers des agriculteurs avaient voté à la fois pour Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et donc, effectivement, le Front National, enfin le Rassemblement National, vise cette population des campagnes, notamment pour cette campagne électorale pour les européennes. On défend ces fameuses valeurs, la chasse, la pêche, le barbecue...
Oui.
Ben oui, une fois qu'on a pêché et chassé, il faut bien faire le barbecue, je suppose, le vin rouge et le Ricard qui vont avec. Et donc, on oppose...
On est chez nous, monsieur.
Voilà. Et donc, Philippe Baquet nous explique aussi que c'est quand même aussi un peu Il parle de l'influence de la FNSEA, ouais, qui est régulièrement, elle, présidée par des représentants de l'agro-industrie. Mmh. D'ailleurs, on l'a vu avec les dernières manifestations des agriculteurs qui venaient de petits agriculteurs. La FNSEA, ce n'est pas tellement leur meilleur représentant. On l'a vécu dans le Loiret avec Xavier Belin,
absolument,
qui n'est quand même pas un petit producteur. Du tout. Et l'un de ses successeurs, Arnaud Rousseau, qui donc est le responsable de la FNSEA depuis avril 2023, est un grand propriétaire. On nous a d'ailleurs un peu expliqué, mais on ne l'a pas beaucoup entendu, qu'il arrivait à toucher des subventions de la PAC parce qu'il a divisé son entreprise agricole en quatre entreprises.
C'est une entreprise qu'il a créée avec Xavier Belin, d'ailleurs. Tout de suite,
et donc ça, c'est pas vraiment la France des petits agriculteurs. Donc il faut qu'ils soient vigilants parce que, bon, évidemment, après, la FNSEA a pris le chemin en route, mais finalement, c'était pas eux les premiers revendicateurs. Et donc, dans son article, Philippe Baquet rappelle cela et dit que finalement, Le Rassemblement national veut défendre la France rurale, mais il défend surtout une politique agricole commune, donc la PAC, et le dernier bail, ça va de 2023-2027, qui a été reconduit avec le vote du RN quand il siège. Et tout ça, c'est au profit des grandes exploitations, puisque ça doit être assez compliqué comme décompte, mais c'est notamment à l'hectare. Donc plus t'as d'hectares, plus t'as de subventions. Et donc, c'est vrai que certains groupes identitaires, comme le CR47, qui est cité dans cet article, mené par un dénommé M. Bousquet, ça ne s'invente pas, Bousquet-Cassagne, ne cache pas ses sympathies de plus en plus affirmées vis-à-vis du Rassemblement national. Voilà ce que nous dit... Il y a un titre aussi, un autre titre à cet article, c'est « La terre ne ment toujours pas ». Il faut bien que les agriculteurs fassent attention à qui essaie de les séduire et qui est vraiment, convaincu par leur cause. Et dans ce diplôme, encore une fois, je ne peux pas citer tous les articles. Avec Victor, on reviendra sur les sages qui se tiennent sages pour parler de politique française.
Mais c'est surtout pour avoir des cadeaux à Noël, oui.
Voilà. Et donc, après, le diplôme, comme à son habitude, va aborder plein de domaines dans la politique internationale. Il y a un article extrêmement intéressant qui débute aussi en première page de Renaud Lambert. Ce que veut la Chine, désordre dans l'ordre international. Donc Renaud Lambert aborde cette question parce que où en sont les Chinois? Et on peut rapprocher ça aussi d'un article de Arnaud Dubien, Moscou est-il le vassal de Pékin? La guerre accélère un rapprochement entre ces deux pays. Et oui, parce que le partenariat russo-chinois, nous explique Arnaud Dubien, est suivi de près avec une certaine inquiétude, même par les Européens et par les Américains. C'était inévitable. Les Chinois vont profiter de la situation difficile, notamment en Ukraine, pour essayer de voir ce qu'ils peuvent gratter au niveau russe. Et les Russes sont bien contents de trouver les Chinois pour commercer avec eux. D'ailleurs, dans cet article, il est dit que les échanges commerciaux ont accru énormément. On est passé de 57 milliards d'euros en 2016 à 174 milliards d'euros en 2022. Et pour 2023, c'est 223 milliards d'euros. Donc la Chine est devenue désormais le premier partenaire commercial de la Russie. Donc ce qui explique évidemment un rapprochement quelque part par la force des choses. Il a bien fallu que les Russes trouvent un autre marché puisque l'Europe se fermait à eux et pour cause. Et donc ils essaient aussi de développer les échanges entre les deux pays, non pas monnayés en dollars, mais dans la devise de ces deux pays. Alors, ils sont copains, mais pas trop, nous dit Arnaud Duvien. C'est-à-dire qu'il y a quelques ombres au tableau. Il y a notamment l'oléoduc Force de Sibérie 2, dont le développement est suspendu. Alors que Gazprom a besoin de cet oléoduc pour vendre sa production à la Chine. Et le responsable d'un ancien think tank qui s'appelait Centre Carnegie de Moscou résume bien la situation en parlant de ces deux pays en disant « Ils ne sont jamais l'un contre l'autre, mais pas forcément toujours avec l'autre. »
C'est ça.
Et on retrouve bien ce qui se trame entre eux, l'opportunisme chinois qui est toujours de mise. Alors, j'en parlais à l'instant. Évidemment, ça fait le lien avec cet article de Renaud Lambert. Ce que veut la Chine, c'est-à-dire que au moins la Chine a un mérite, c'est-à-dire que les républicains aux États-Unis et les démocrates sont d'accord. Ils se méfient beaucoup de la Chine.
Ah mais non, mais c'est clair.
Ils ont raison.
Mais non, mais et tout le monde parle d'un conflit inévitable entre les États-Unis et la Chine. Moi, qui me fait plus peur que avec la Russie, par exemple.
Ah bah oui, parce que les Chinois ont des moyens dans cet article. Renaud Lambert nous explique que c'est, qu'on le veuille ou non, c'est la première économie mondiale.
C'est clair. Alors,
ils sont peut-être pas premiers dans tous les domaines, mais sur ce plan-là, ils le sont. Et donc, la Chine, on en a beaucoup parlé, notamment avec Henri, qu'on peut saluer au passage, avec le développement de la route de la soie, notamment la Chine essaie évidemment de faire avancer ses pions à chaque fois que c'est possible, que ce soit avec la Russie ou sur le continent africain. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Et ce qui est assez intéressant dans cet article, c'est expliquer que comment Xi Jinping mène sa barque et son gouvernement. Parce que il y a des chiffres assez impressionnants, comme ce pays est tellement immense et tellement peuplé. C'est un pays où il y a 40 millions de cadres. Et 500 000 occupent des fonctions de direction. Et donc, Xi Jinping, il a eu, on va dire, la finesse pour s'appuyer sur cette imposante bureaucratie et ne pas se braquer contre ces gens-là, dont il a besoin. Et puis le pays étant tellement immense que même l'État fortement fourni en fonctionnaires, eh bien, ne peut pas tout contrôler. Et donc, ce qui est arrivé à des aberrations. Il y a des villes entières, pas seulement en Chine, mais en Chine, c'est à une échelle inégalée. Il y a des villes entières qui sont vides d'habitants.
Oui, c'est vrai.
Ils ont construit. Il y a un chiffre qui est assez impressionnant. De 2011 à 2013, la Chine a utilisé plus de ciment que les États-Unis tout au long du XXe siècle. C'est vraiment impressionnant. Ils ont construit jusqu'à, comme je le disais, à construire des villes où il n'y a personne.
C'est pour ça aussi que le premier promoteur chinois, il est endetté, je crois, de l'ordre de 1500 milliards de dollars.
Oui, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui sont...
Oui, surtout que, bon, après, la comparaison avec les États-Unis, c'est un petit peu bancal, puisque les États-Unis, ils utilisent beaucoup le bois pour la construction des maisons et aussi l'acier et le verre pour la construction des immeubles.
Oui, peut-être. Bonne précision de la part de Victor. Cet envoyé de Castorama, qui construit ses maisons en bois, évidemment. On est obligé de placer quelques slogans publicitaires pour soutenir la radio.
C'est impressionnant, cet article de Renaud Lambert sur les chiffres.
C'est vraiment, ça explique la finesse d'un pays qui est immense et comment gouverner tout ça. Et donc, les Chinois, notamment le président Clinton, avaient beaucoup plaidé pour qu'ils entrent au sein de l'OMC, ils en font désormais partie. Quelque part, nous dit Renaud Lambert avec beaucoup de pertinence, et du coup, la liberté économique revendiquée par les États-Unis a propulsé la Chine au rang de première économie du monde.
Absolument.
Et maintenant, les Occidentaux en général misent sur des fissures qu'on aurait, qui pourraient ébranler cet immense pays. Il y a certes quelques mouvements indépendantistes du côté de Taïwan, le Tibet, Hong Kong, mais je ne sais pas si ça va beaucoup effrayer le pouvoir central, tout ça.
Ah mais non, mais les spécialistes disent que ça, il va rien se passer. Xi Jinping a envie de prendre Taïwan et ça va arriver à un moment, un jour ou l'autre. comme nous disait Henri, l'autre Henri donc, souvent, oui. quand il venait là, il nous expliquait bien que Taïwan sera chinois à un moment ou à un autre.
Oui, voilà. Et c'est juste une histoire de timing.
Oui, c'est ça.
Donc, dans les articles qui sont dans ce diplôme du mois de mars, il y a beaucoup de choses. Avec Boris, on ira du côté de l'Ukraine. Et donc... sur le plan international, il y a un article qui est assez cocasse. C'est les outistes défient Washington, oui, de Tristan Coloma. C'est assez étonnant, oui. Les outistes qui n'ont qu'une partie du Yémen, voilà. D'ailleurs, ils arrivent à avoir des hélicoptères, oui, super perfectionnés. Mais... alors que c'est l'un des pays les plus pauvres du monde.
Tout à fait.
Comme quoi, quand on veut vraiment acheter des armes pour tuer, on trouve de l'argent. On trouve des gens qui vous les payent.
L'argent du pétrole iranien,
pour d'autres choses, pour d'autres choses, on ne trouve pas.
Ouais. Et donc, ils font du mal quand même. Hein. Il y a encore un bateau qui a été coulé hier.
Ils font du mal dans cet article.
Et qui va polluer, hein.
Et oui, il est expliqué que les autistes yéménites, donc, ils ont intensifié leurs actions de déstabilisation du trafic maritime. Mm-hmm. Entre le 19 novembre et la mi-février, il y avait déjà plus de 30 attaques. Et c'est vrai que beaucoup de transporteurs ont choisi de passer par le cap de Bonne-Espérance plutôt que de se risquer dans la mer Rouge et notamment au détroit de Bab el-Mandeb, qui est un lieu clé de l'économie mondiale, mais aussi un talon d'Achille, nous explique Tristan Coloma. Donc les rebelles ont effectivement pris le contrôle de Sanaa, la capitale yéménite. Et ils sont très bien placés, évidemment, pour attaquer qui ils veulent. Dans cet article, d'ailleurs, Tristan Coloma fait remarquer que, ils soutiennent la Palestine, certes, mais ils s'en servent aussi de tout ça pour négocier une paix, pour qu'enfin l'Arabie Saoudite, qui d'ailleurs ne sait pas comment sortir de l'affaire, signe un traité de paix et que, on les laisse... ça serait une bonne occasion, d'ailleurs, pour l'Arabie Saoudite de se sortir de ce guépier yéménite. Et puis, ils sont dans le soutien, certes, mais ils pensent à eux. Et donc, ils pensent que, comme ça, ils auront une monnaie d'échange pour obtenir un traité de paix qui leur serait pas trop défavorable. Et ils ont trouvé le moyen aussi, nous fait remarquer Tristan Coloma dans son article, qu'ils n'étaient pas forcément très populaires, les autistes, dans la population yéménite. Et du coup, ils se sont retrouvés un peu un rôle de Zorro, qui fait qu'ils ont une meilleure presse au sein de leurs compatriotes.
Et même dans ce qu'on appelle le monde arabe, qui n'existe pas pour moi, mais la rue arabe, on dit souvent.
Je peux intervenir en parlant des outils, là. Oui. En ce moment, il y a des manœuvres iranienne. L'Iran soutient les outils et les outils mettent en péril l'économie chinoise.
Tout à fait.
On considère que c'est entre 5 et 10 points de PIB qui va disparaître à partir du moment où ça va coûter plus cher et où ça va donner des opportunités de relocalisation. Et les Chinois, c'est là où on se demande, dans ces espèces de regroupements là, de pays, en fait, ils s'allient à des ennemis.
Oui, bien sûr, mais en tout cas, ils font gaffe quand même. Hein. C'est, pour l'instant, les outils ils bombardent des navires occidentaux, des navires américains notamment. Mais et c'est vrai que ça impacte l'économie mondiale et dont l'économie chinoise.
Ils font partie de l'OMC et dans l'OMC, il est prévu des pénalités à partir du moment où vous ne fournissez pas les éléments qui ont été prévus contractuellement.
Oui, bien sûr.
Et les Chinois sont en train de payer un max aux industries, surtout automobiles européennes.
Oh, mais un jour, ils vont siffler la fin de la
période. Oui, mais dans ce détroit aussi, il y a des câbles sous-marins qui servent notamment beaucoup pour Internet. Donc, ils ont dit qu'ils allaient éventuellement couper ces câbles. Mais donc, ils l'ont pas fait encore. Ils se sont dit, là, on va peut-être se faire taper sur les doigts, et même très, très fort. Donc, on va passer à autre chose. Dans les articles du diplôme, encore une fois, je ne peux pas tous les citer, puis je vais laisser le temps de parole à mes petits camarades, mais il y a un article extrêmement intéressant qui démontre bien, si on pouvait en rester là, c'est la complexité de ce monde, parce que c'est sur le Soudan.
Oui.
Le Soudan, de la transition à la dislocation. Alors là, c'est assez phénoménal, ce qui se passe là-bas. Tristement phénoménal, puisqu'il est question évidemment de la guerre civile soudanaise qui a causé depuis avril 2023 plus de 20 000 morts, et encore c'est pas très bien, 7 millions de déplacés, et qui oppose parfois, oui et parfois non, deux mouvements, les forces armées soudanaises, le FAS, et les forces de soutien rapide, le FSR. Donc tous ces gens-là, là aussi, on trouve des armes facilement, alors que là aussi, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Donc on est financé pour ça, il n'y a pas de problème. C'est une crise qui vient de loin, nous explique Gérard Prunier, l'auteur de cet article. Et finalement, dans cette partie, je ne voudrais pas être trop long, mais dans cette partie de la Corne de l'Afrique, l'auteur explique bien que finalement... c'est l'Éthiopie qui reste le pays le plus solide de cette région, le plus stable, et que le Soudan est vraiment pris entre le nord et le sud, entre ces deux mouvements que je viens de citer, et qu'ils ont un président qui n'est plus là, qui a été renvoyé, qui, de toute façon, dès qu'on met la main dessus, il devrait... comparaître devant la Cour pénale internationale. Enfin bref, c'est un pays complètement remué, sans dessus-dessous, et où les pays européens, américains, russes ne manquent pas là aussi de se tirer dans les pattes, bien sûr. Que on les laisserait bien tomber dans leur propre misère, qu'on n'est pas loin d'avoir provoqué quand même, mais ils ont de l'or. Donc ils sont un peu intéressants à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils ils font beaucoup de commerce de l'or avec notamment la Russie d'ailleurs. Mais donc un pays, une partie de l'Afrique extrêmement chahutée qui ne fait qu'aviver de légitimes inquiétudes. Donc je ne peux pas tout citer. Après, avec Pierre, on parlera un petit peu de la démocratie américaine qui organisait le terrorisme racial, un article de Loïc Vacan, qui nous a bien intéressés. Mais on va laisser ces messieurs.
Oui, mais on va commencer par Victor. Mais avant, un peu de musique. Le monde va mal, mais écoutons du quand ça va mal, on écoute du blues et des...
Et tout est possible. Ce monsieur, il jouait de la musique, Robert Finlay, dans son petit coin. Et puis, à 60 ans, il a débuté sa carrière pour être plus connu.
Et son dernier album est sorti
magnifiques.
Ouais, absolument. Ouais. L'année dernière, qui s'appelle Black Bayou. Et sur Black Bayou, il y a Alligator Bait. Pierre nous disait que c'était l'appât.
Hein, l'appât des alligators.
Un bâton rompu jusqu'à 20h.
Bayou. Put on your swamp boots, baby. We're going for a ride down by Black Bayou. Bring your camera, baby. We might. Might see an alligator or a crocodile. I remember the first time my pawpaw took me down Black Bayou. There walking around across on a log, and I knew anything. I stepped on a log and the log moved, and I didn't know what to do. So my grandpa would say, "Boy, you stepped on an alligator back." A lot of kids got ate like that. better. I was just a kid. But this low down thing that my grandpa did, he know, I know that he loved me, and he wouldn't want me to get hurt. But what he did that day was a mistake, 'cause he used me for alligator bait. When the gator moved, he shot the gun. He said, boy, you did good. So confusing, I was just a lad, but I was old enough to get mad. I say I'm going home and tell my daddy what you.
Quelle voix, quelle voix. Robert Finlay à l'instant dans Bâton Rompu sur Radio Campus Orléans, Radio Campus Tours. Alligator Bait, l'album Black Bayou, je rappelle, sorti en 2023. Et tu disais, il a commencé sa carrière un peu tard. Il fait deux albums qui marchent du tonnerre de Dieu. Il arrête un peu. Et puis il se représente à, c'est America Ghost Talent. C'est, je crois qu'il y a une émission comme ça aussi en France où tu y vas et puis tu as du talent. Quoi. Et
donc, il a fait un seul concert en France, je crois, ça, sur Paris, ouais, et puis c'est tout.
Bah,
oui. Cigale, il me semble.
Mais c'est ce qu'il dit. Il dit, enfin, je viens de lire une interview là, pendant qu'il chantait. Ouais, pas trop. Pourquoi
le blues, après, c'est pas forcément le style le plus populaire à l'heure actuelle en France. Mais,
je sais pas comment finit l'histoire de sa chanson. Là, mais
tu avais l'air de suivre ça.
C'est, bah, ouais. C'est lui, en fait, l'appât, c'est son grand-père qui le met devant un alligator.
Pour servir d'appât.
Pour servir d'appât, et en fait, il va le dire à son père. Et je sais pas comment finit l'histoire.
Les, eh ben, il faut
il n'est pas continuer. Mort parce qu'il est là pour le chanter.
Ouais, ouais, il chante toujours, mais l'alligator est en mauvais état.
L'alligator, oui, il est en sac à main, on va dire.
C'est ça. Et puis ça, peut-être ça lui a appris à nager, à Robert Finlay. À Bâton Rompu, la suite.
À Bâton Rompu, le magazine de l'actualité Alter International.
Mais Alter. Bah oui, parce qu'on essaye de faire ça autrement que les gens. Mais on va parler quand même
des sages.
Des sages qui sont pas trop sages. Ou s'ils sont trop, trop sages.
Si, ils sont trop sages.
Voilà,
c'est, ouais, non,
mais, voilà, c'est un article court, mais qui dit ce qui est. Ben, voilà, c'est important. Il y a eu la loi sur l'immigration, la loi Darmanin, on en a parlé ici dans cette émission. Mm-hmm. Il y a eu un débat, des débats au Sénat, à l'Assemblée. Mais ce qui est ressorti de ce que nous a ressorti le Conseil constitutionnel, c'est la parole, ce qu'avait écrit Gérald Darmanin finalement, c'est ça hein.
C'est ça.
Et il y a une loi qui va venir en débat, enfin qui va être en débat et qui va être aussi proposée au Conseil constitutionnel, c'est le droit du sol à Mayotte, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Bon.
Oui, le droit du sol.
Et donc c'est sur ces éléments-là que parle cet article.
C'est ça.
Vas-y.
Alors, des sages qui se tiennent bien sages, par Laureliane Fontaine, qui est professeure de droit public et constitutionnel à l'Université Paris 3. Alors, ça parle du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que c'est le Conseil constitutionnel? C'est une institution de la Ve République qui, en fait, a en charge la protection et la mise en place de la Constitution. Alors la Constitution, qu'est-ce que c'est ? La Constitution, c'est un texte législatif. Enfin, non, c'est pas un texte législatif, je me ferais assassiner pour avoir dit ça. Ouais. C'est un texte qui, en gros, encadre les pouvoirs et les contre-pouvoirs qui existent au sein de l'État, qui garantit, donc qui définit le rôle du président de la République, du Premier ministre, du Parlement, du Sénat, etc., etc., etc. Donc ça, c'est la Constitution de la Ve République. En plus, dans le bloc de constitutionnalité, on a aussi la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et le préambule de la Constitution de 1948, qui donne plutôt sur les droits sociaux et les droits au travail et le droit syndical.
Et depuis quelques jours, le droit à l'IVG.
Ouais. Et aussi la Charte de l'environnement.
Et la Charte de l'environnement, absolument, ouais.
Voilà. Donc le rôle du Conseil constitutionnel, c'est en fait, lorsqu'il y a une loi qui est votée au Parlement, il peut être saisi par 40 députés pour vérifier la conformité de la loi qui a été votée à la Constitution. Donc sur la loi immigration, par exemple, le Conseil constitutionnel a bien été saisi et il a censuré 35 dispositions. Donc ça va paraître beaucoup.
On était contents quand même. On était plutôt contents. Mais finalement, c'est la suite qui est intéressante. Vas-y.
Donc on se demande si c'est un contre-pouvoir au pouvoir exécutif. Eh bien, pas vraiment, parce qu'en fait, il a principalement censuré des cavaliers législatifs. Alors, qu'est-ce que c'est un cavalier législatif ? C'est quand, lors de la discussion à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on modifie des articles de la Constitution pour inclure des choses qui n'ont pas de rapport avec l'objet de la loi qui a été votée, concrètement. Donc, ils ont censuré ça en disant que ce n'était pas conforme à la Constitution. Normalement, un projet de loi doit être uniforme et cohérent du début à la fin. Mais par contre, là où on a été déçu, c'est qu'au final, il n'a pas posé des questions de constitutionnalité, notamment vis-à-vis de la question de la préférence nationale.
C'est ça.
Parce qu'on pourrait partir du principe que c'est... Ah oui, dans le bloc de constitutionnalité, j'ai aussi pas oublié de parler des principes particulièrement nécessaires à notre temps et des principes généraux du droit, qui sont des droits discrétionnaires qui sont en fait choisis par le Conseil constitutionnel comme et faisant partie du bloc de constitutionnalité, mais qui ne sont pas directement inscrits dans la Constitution. Un exemple très concret, par exemple, c'est la liberté de parole des professeurs d'université. Un professeur d'université ne peut pas être attaqué sur les propos qu'il tient lors de ses cours.
Tout à fait.
Alors, à l'extérieur, oui, hein, bien sûr, dans les médias, etc. et tout, mais on ne peut pas forcer la parole d'un professeur d'université lorsqu'il parle lors de ses cours. Il peut insulter le président de la République, il n'y a pas de droit de réserve ni quoi que ce soit.
Pierre ?
J'ai jamais fait ça.
Et donc, on aurait
tu
pu...
Tu m'as réveillé. Ouais.
Il y a des sages partout.
Oui, c'est ça.
Mais du coup, on aurait pu se poser la question de savoir si jamais, à cause de la question de la préférence nationale notamment, est-ce qu'on ne pouvait pas mettre en un principe général du droit qui est que l'État applique la loi de la même façon pour les ressortissants des pays étrangers au même titre que pour les ressortissants nationaux.
C'est une vraie question.
C'est une vraie question, mais qui n'a pas été soulevée par le Conseil constitutionnel.
Du tout.
Pareil, pour les retraites, on a eu plusieurs problèmes en avril 2023. Il y a eu un contournement de l'article 34 qui prétendait que... dans lequel il est écrit que le financement de la sécurité sociale est un domaine réservé du Parlement. Et elle a été contournée par l'article 47.1 qui, en fait, permet de voter en bloc une loi. C'est bizarre parce que, du coup, ça allait à l'encontre d'un autre article de la Constitution. Mais finalement... Ça a été validé par le Conseil constitutionnel. Pareil, il y a une multiplication des 49.3, des 44.3 et des 47.1. Alors ne me demandez pas, parce que ça fait très longtemps que j'ai fait des 49.3 constitutionnels. Là, je me contente de citer l'article. Et cette multiplication a été notée, mais pas sanctionnée par le Conseil constitutionnel. Et le dernier, c'est les estimations gouvernementales étaient erronées, enfin qui ont été données au Parlement, étaient erronées notamment sur la question des 1200 euros pour tout le monde, etc. Enfin, c'était le gouvernement a donné des chiffres qui n'étaient pas valables.
C'est ça.
Ça a été noté, mais ça n'a pas été sanctionné par le Conseil constitutionnel qui a considéré que la loi a été effectivement bien notée, a été votée dans les termes voulus par la Constitution et du coup n'a pas été censurée. Donc... on est un peu entre deux... Enfin, on ne sait pas trop sur quel pied danser, parce que le Conseil constitutionnel, il faut se rappeler que c'est la seule institution qui, en fait, sous le régime de la Ve République, a une forme de contre-pouvoir vis-à-vis du pouvoir exécutif.
Bien sûr.
Pourquoi ? Parce que le pouvoir exécutif en France, depuis l'élection du président à l'élection nominale majoritaire à deux tours, suffrage universel... Ouais. En fait, l'élection législative n'est qu'une redite de l'élection présidentielle.
Absolument. Jusqu'à ce que Jospin change quand même mettre le quinquennat, parce que ça.
Ouais. Justement, ça a été fait pour faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de faire des dissolutions intempestives quand le président arrive au pouvoir. Donc du coup, on a une redite des élections présidentielles. Donc on a le président, donc un des membres de l'exécutif, qui va choisir son premier ministre parmi ses troupes, donc un membre de l'exécutif. Dans un Parlement qui est majoritairement acquis à la cause du président. Donc, on a les membres du pouvoir législatif et les membres du pouvoir exécutif qui sont cul et chemise et qui vont pouvoir mener en place la politique du président de la République. Donc, du coup, il y a très peu de contre-pouvoirs au final au sein de la Ve République, sauf le Conseil constitutionnel, parce qu'effectivement, c'est le pouvoir judiciaire qui, du coup, peut définir si les lois qui sont votées ou pas par le gouvernement sont conformes à la Constitution.
Oui, il n'y en a carrément pas, mais bon, il ne faut pas le dire trop fort, parce qu'on va penser qu'on est des rebelles ici. Mais effectivement, et puis il faut rappeler aussi que le président du Conseil constitutionnel est désigné par le président de la République. Il a double voix, je crois. Mm-hmm. Et globalement, là, je regardais la liste.
C'est Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel.
Actuellement, c'est Laurent Fabius, les membres du Conseil constitutionnel. Déjà, je note, il y a trois femmes. Mm-hmm. Mais par contre, voilà, il y a... c'est des membres du spectre, ça va du Parti socialiste jusqu'à la LR, quoi. Mmh. Voilà, donc c'est plutôt la majorité, quoi. Voilà.
Et puis surtout, la particularité, c'est que ce sont souvent d'anciens membres politiques.
Bien sûr, évidemment.
C'est pas des personnes qui viennent du monde de la magistrature, très rarement.
On dit ça, mais il y a le même problème aux États-Unis avec la Cour suprême. Le président désigne des gens quand ils sont morts, et donc on n'a que des vieux Non, mais la Cour constitutionnelle française ne sert pas à grand-chose. Pardon de le dire aussi violemment.
Disons que le président des États-Unis désigne des gens qui vont être élus à vie.
À vie, en plus.
Ouais, c'est ce que tu voulais dire, peut-être quand tu as dit qu'ils sont morts. Mais,
En fait,
ils sont élus à vie.
À vie, absolument.
Ils sont neufs et ils ne sont changés que quand ils meurent.
Ouais.
Ou quand ils démissionnent, ce qui est assez rare.
Ce qui est très, très rare. Et donc, en France, on a à peu près la même chose. Hein,
La différence, c'est que c'est pas la Cour... comment dire ? La Cour suprême aux États-Unis, ça chapeaute toutes les autres cours. Alors qu'en France, on a trois ordres différents. On a le Conseil constitutionnel pour les questions de constitutionnalité, on a la Cour de cassation pour les affaires civiles et on a le Conseil d'État pour les affaires administratives.
Absolument.
Mais du coup, le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus du Conseil d'État ou de la Cour de cassation.
Nous sommes d'accord. Je me suis un peu emmêlé.
Mais c'est vrai que ça ressemble à ça, parce que du coup, c'est ceux qui analysent les questions de constitutionnalité, comme la Cour suprême le fait aux États-Unis, notamment sur la question. Récemment, il y avait la question de l'immunité présidentielle du l'ancien président Donald Trump,
qui a été
examinée par la Cour suprême américaine.
Alors évidemment, comme ce sont les présidents qui vont désigner les juges, si jamais pendant la mandature de Trump, il en a eu
trois.
Alors que parce qu'il a eu la chance qu'il y en ait trois qui meurent.
Non. La tradition voulait qu'un président nomme une personne seulement. Et il aurait dû attendre parce que il aurait pu très bien attendre que le prochain président en nomme un. Alors que ça a fait bondir quand même beaucoup de médias et bien sûr les démocrates. Il en a nommé trois.
Ben bien sûr.
Voilà.
Mais il avait le droit de le faire.
Et donc, il est relativement jeune.
Cet article, donc, des sages qui se tiennent sages, par Laureline Fontaine, qui est professeure de droit, je ne sais plus où, professeure de droit public et constitutionnel à l'Université Paris 3, à la Sorbonne. Donc. Merci. Merci Victor. À toi, Victor.
De rien, ça m'a fait plaisir.
Ouais. tu dois t'échapper, non ?
Non, c'est juste qu'il y avait quelqu'un qui sonnait à la radio. C'était Raiden.
Ah ben, ils arrivent déjà, donc ils sont là ce soir. Juste après le jingle, oh là, il faut qu'on se dépêche.
À bâton rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Nous allons parler d'environnement, de réchauffement climatique, Pierre, et je vais enlever l'hypocrisie, mais c'est...
T'as raison, c'est une façon de le présenter. On va se dépêcher, moi ma présentation, elle va être courte, en fait. Par contre, je vais vous inviter à aller le lire, cet article qui est très intéressant. Il fait écho à un article, comme je disais tout à l'heure, qui est paru en décembre, que j'avais présenté ici aussi, et qui parlait des limites de l'adaptation.
Tout à fait.
Parce qu'en fait, Dubaï vient de terminer, de se terminer. Bon, on a accouché d'une souris, on va dire.
Il faut des préconisations, attention.
Voilà, exactement. Mais il y a cette histoire de 4 degrés. Finalement, on a décidé qu'on allait s'adapter à plus 4 degrés. Alors, outre le fait qu'il y a des gens qui nous disent que ça va être très, très, très compliqué, la question que pose cet article, ils sont trois d'ailleurs, il y a trois auteurs.
C'est ça. Ce sont des scientifiques en plus.
Voilà, exactement.
Je vais vous retrouver ça.
Voilà, dès que tu nous trouveras, tu nous diras qui sont ces trois auteurs, et deux autrices d'ailleurs, et un auteur. Et l'idée, c'est que pourquoi est-ce qu'on s'adapterait ? Finalement, c'est plutôt une bonne idée. On va dire à tout le monde, on va mettre de la verdure dans les villes, et puis on va trouver des solutions pour s'adapter. Sauf qu'ils font remarquer, ces gens-là, que c'est un parti pris politique de dire on va s'adapter aux 4%. Parce que finalement, il y a des gens qui disent que ça serait possible de trouver des solutions, sauf que pour trouver cette solution-là, il faudrait demander aux financiers et demander aux industriels de se calmer un petit peu. Or, un des mantras de nos sociétés libérales, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus de fric, toujours plus de pouvoir, toujours plus de choses. Et c'est, du coup, est-ce que c'est entendable? Est-ce que les préconisations des gens qui essaient de trouver des solutions et qui disent que ça existe sont entendables? Voilà. En gros, c'est la démonstration que fait cet article.
Le 4 degrés, c'est beaucoup français. C'est-à-dire que c'est Christophe Béchu qui a décidé ça. Qui le répète d'ailleurs, hein, on va s'adapter à 4 degrés. Mais ce sont le GIEC ne dit pas ça. J'ai la chance d'avoir dans cette émission régulièrement
Gonéry
Le Cozané, qui est un des experts du GIEC. Il est au BRGM à Orléans. Mais oui, mais eux, ils n'ont jamais été.
Ils n'ont jamais été consultés
pour que la parole politique, comme tu dis, nous dise « Oui, mais bon, allez, c'est pas très grave, on va s'adapter. » Tout ça parce qu'il y a des grosses entreprises, comme tu disais, qui demandent qu'on ne fasse pas qu'on ne fasse pas ça à la Staline, quoi.
Ouais. Mais comment rendre sages ces industriels et et les financiers qui en demandent toujours plus.
Au
goulag autogéré.
Les emprisonner.
Et comment leur dire que ça serait bien qu'on trouve des solutions? Alors bon, on ne parle pas de décroissance volontaire, mais pourquoi pas? Il y a plein de solutions qui seraient possibles, mais qui sont inentendables par les...
Ah oui, carrément. En ce moment, ce n'est pas possible.
Par les gens qui sont trop libéraux, on va dire.
Ouais. Qui ont des intérêts plutôt, des intérêts.
Toujours la finance. Quand est-ce que ça va?
On touche au portefeuille d'action.
Quand est-ce que ça va s'arrêter ça.
Mais voilà, et puis alors, il y a aussi une belle petite carte dans cet article qui est sur la responsabilité des pays riches aussi. Ouais. Parce qu'il y a des entreprises, sur la carte, il est dit. Les effets sont connus depuis au moins 40 ans. Et les pays les plus riches continuent d'émettre massivement du gaz. Et on demande le plus possible aux pays asiatiques, aux pays africains de s'adapter. Voilà.
Alors maintenant, au lieu de dire on va diminuer ce qu'on fait, on dit on va s'adapter.
On va s'adapter. Allons-y.
Et il donnait un exemple d'ailleurs dans cet article-là en disant on va planter 1 milliard d'arbres. Voilà.
Oui, c'est ça.
Et du coup, on autorise l'aviation à polluer deux fois plus. Eh ben oui, parce qu'on a planté des arbres, alors du coup on peut...
Mais c'est dingue, ça fait 40 ans, et puis alors on nous dit de prendre des douches plutôt que des bains, on nous dit d'aller planter un arbre quand tu as fait je sais pas combien, enfin bon, bref, c'est pour ça que je parlais d'hypocrisie, j'aurais pu choisir un mot plus dur.
Ah mais moi, pourquoi pas, moi je trouve que de penser à s'adapter au plus 4%, 4 degrés, c'est peut-être même une bonne idée. Oui. Cela dit, ça cache... C'est quand même un parti pris politique, quoi.
Oui, bien sûr.
Et ça cache le fait qu'on n'a pas envie de dire aux gens que ça intéresse de se calmer un peu et puis d'arrêter
me semble que c'était 100 entreprises qui produisent 71% du trafic mondial... et de la pollution mondiale, il me semble.
C'est à peu près dans cet ordre-là. Donc cet article-là...
À lire, oui.
Ouais, l'adaptation plutôt que la lutte contre le
dérèglement. Et on ne parle pas des vaches, hein.
Oui, bien sûr. Ouais.
Attention, les vaches, attention. Hein, éviter, parce que là, c'est grave. Hein.
Le titre, c'est « Éviter l'autoritarisme climatique », écrit par Fabienne Barato, Laurent Husson et Stéphanie Mariette, qui sont des membres du collectif scientifique En Rébellion. Scientifique en Rébellion, c'est le titre de leur groupe. Et elles sont respectivement géographes, ingénieurs de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et géophysiciens pour le dernier. Voilà, à lire cet article, ce sont des scientifiques. Mmh. C'est ce qu'on se dit souvent. Hein. Et puis, allez écouter le podcast de l'émission d'il y a 15 jours avec Gonéry Le Cozané. C'est devenu un ami maintenant, hein, Victor de Victor.
Ah oui, oui, oui. Ah, voilà. On le tutoie et tout. Un membre du GIEC. Moi, j'en suis très content.
Ah bah voilà, c'est ça. Et en tout cas, il est toujours très, très pédagogue dans cette émission. Et dire aussi que Valérie Masson-Delmotte, qui était coprésidente du groupe 1 du GIEC, elle est climatologue, elle sera à Orléans mercredi 24 avril à 20h30. Gonéry nous en a dit du bien, il a travaillé avec elle. C'est Salle Eiffel à Orléans, c'est mercredi 24 avril à 20h30. Alors on va continuer. Oui, allez, on se dépêche.
Ouais, avec Boris, oui.
Allons-y.
À bâton rompu, l'état du monde.
L'état du monde, en, oui, Ukraine, oui, en Ukraine.
Alors l'Ukraine, encore une fois, l'Ukraine et ses frontières à l'est, la Russie, bon, c'est ce qui s'y passe, hein, la guerre. Au nord, la Biélorussie, alors bon, féal de Moscou, mais qui n'intervient pas, paradoxalement. Hein, voilà, c'est bizarre. À l'ouest, Pologne, Slovaquie, ça va, ouais, ça marche. Ouais. Hein. Et au sud, bon, le sujet de l'article, hein, la Hongrie, la Roumanie, la Moldavie. Et puis ensuite, on tombe dans la mer Noire. Hein. Oui. Bon, l'Ukraine est un pays qui, artificiel, hein, j'ai toujours dit, qui a été créé après la Première Guerre mondiale, grosso modo en 1920, et finalisé quand même en 1927, quand les soviétiques ont envahi cette partie et créé une des républiques socialistes soviétiques. Oui, entre-temps, bon, ça a été un petit peu la Pologne, ça a été un petit peu le bazar. Hein. Avant, il y avait le Grand-Duché de Kiev, hein, de 8e au 14e siècle, hein, détruit par les Mongols. Puis, pour mémoire, c'était deux fois la taille de l'empire de Charlemagne. Ouais, on a même eu une reine au 11e siècle, hein, Anne de Kiev. Puis, bah, ça a été, entre autres, hein, l'empire austro-hongrois, hein, jusqu'en 18, quand ils ont perdu la guerre. Ce qui explique, dans le sud, l'article de Corentin Léotard, avec une communauté maillard hongroise importante. Hein, les maillards se considèrent comme des binationaux, hongrois et ukrainiens. Hein, et voilà. Et Budapest étant pro-russe, hein, je ne vais pas rappeler un petit peu les propos de Viktor Orban, hein, cette communauté est prise au piège par rapport au conflit russo-ukrainien. En aparté, hein, depuis la révolution orange, hein, le gouvernement ukrainien a fait pour moi une double erreur. Hein. D'une part, il a obligé l'enseignement en ukrainien. On parle dans le Donbass où il y a la guerre en ce moment, bah, ouais, c'est une majorité de russophones qui ne parlaient pas ukrainien, donc ils l'ont très mal vécu, ouais, alors qu'ils étaient pour la Révolution Orange. Ouais. Et on se rend compte qu'il se passe la même chose là, au sud avec la minorité hongroise, c'est-à-dire qu'ils ont supprimé ce fait d'être et à la fois hongrois et ukrainien et obligé l'ukrainien à l'école.
D'apprendre l'ukrainien. Voilà. Mais, oui, mais enfin, je te l'avais déjà dit lors de la dernière fois, tu me disais, mais comment les Ukrainiens auraient pu faire un pays s'ils n'apprennent pas leur langue dans les écoles, quoi.
Oui, mais ok, mais on pouvait laisser les deux. Oui, moi, j'ai de la famille là-bas. Bon, tout le monde le sait, hein, je m'en cache pas. Mais j'ai de la famille à Kiev qui était très haut placée. Ils étaient communistes à l'époque de l'Union soviétique. Ils sont nés à Kiev. Ils ne parlent pas l'ukrainien.
Ils parlent quoi, russe ?
Ils parlent russe. Ouais. Voilà. C'est l'intelligentsia, les 3% là, parlaient russe. Ouais. Tout l'Est, à 80%, était russo, quand on dit russophone. La Crimée, on l'a dit, à 90% était russophone. Ouais. Et ça a été pain béni pour Poutine. Mais déstabiliser. À partir du moment où l'Ukraine a fait l'erreur de dire « Maintenant, c'est l'ukrainien obligatoire », voilà, il y a eu ingérence de la Russie, il y a eu la Crimée, puis maintenant, il y a le Donbass. Et puis, ils essayent de faire la même chose dans ce coin-là, dans la Transcarpathie.
La Transcarpathie,
c'est vachement beau. Hein. Il y a des stations de ski, c'est très luxueux. C'est une des régions les plus luxueuses d'Ukraine.
D'accord.
Voilà.
Mais ce que tu dis, ça fait un peu blâmer la victime. C'est-à-dire que c'est la faute des Ukrainiens. Pour moi, oui. C'est la faute des Ukrainiens s'ils sont attaqués par les Russes, du coup.
Non, ils ont fait l'énorme erreur d'obliger la population à parler ukrainien alors qu'ils ne parlaient pas ukrainien. Ouais. Ce qui fait qu'à l'origine, dans le Donbass, il y a eu des élections. Hein. Ils ont voté pour la Révolution Orange à 95%.
Oui, bien sûr.
Ils étaient donc pro-ukrainiens. Et puis après, le gouvernement ukrainien a dit ben voilà, maintenant, ce sera l'ukrainien, point. Ouais.
Mais c'est un vrai problème. Hein.
C'est un problème.
On pourra pas régler ce problème ukrainien si on ne règle pas le problème des minorités.
Voilà.
Hein, ça sert à rien d'envoyer des troupes, Emmanuel. Voilà. On n'envoie pas des gamins à mourir sur le sol. On essaie de régler avec la Russie des problèmes de minorités et avec les maître autour d'une table.
Après, il y a un requin facho qui s'appelle Orban qui est en train de semer le doute parmi cette minorité. Hein. Cette minorité, bon, il a été dit en préambule, hein, cette région a été polonaise, autrichienne, tchèque, hongroise, soviétique, puis maintenant ukrainienne.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est un melting pot. Hein. Il y a eu même des Roms. Il y a eu d'autres nationalités. Eh ben, il faut savoir aussi que les Ukrainiens devraient faire la part des choses et dire bon, c'était des binationaux. Ben, on les laisse binationaux. Et ils sont encore pro-ukrainiens, sauf que ils étaient 150 000 et il y en a déjà plus de 50 000 qui ont quitté la région. Bon, déjà pour échapper à la guerre, ça c'est sûr. Mais d'autre part, pour rejoindre la Hongrie d'Orban, parce que ben, ils se considèrent maintenant plus hongrois, donc pro-soviétique, pro-russe, pardon. Que ukrainien. Oui, donc c'est quand même un sacré problème. Hein.
Ouais, tu fais le lapsus, mais il est bien placé.
Oui, soviétique.
Alors, Poutine est resté soviétique. Ouais. Alors, le titre
c'est une Ukraine de plus en plus
voilà,
homogène. Ça veut dire que les populations
Tout le monde est sur le même plan, et c'est pas vrai. Ouais. Voilà, et même en France, c'est pas le cas. Nous, on a eu aussi notre guerre hein, des écoles entre 1900 et 1910. On a forcé les Bretons
De cracher par terre voilà. Et par les Bretons.
On envoyait l'armée dans les écoles pour que les écoliers bretons parlent français. Donc
c'est
on
vrai,
a
ça,
eu,
c'est vrai, ça pas, je l'ai lu, mais
oui, non, mais c'est vrai. Mm-hmm.
Et après, tu as Bolloré.
Voilà.
Merci, merci la Troisième République.
il y a des effets qui tardent à venir, mais quand ils arrivent, c'est catastrophique.
Dans cette Transcarpathie, là, il y a des ingérences de groupes d'extrême droite, bien sûr hongrois, russes, mais aussi allemands,
allemands,
qui interviennent et qui essayent de déstabiliser. Alors imaginons un deuxième front qui s'ouvre. Pour l'Ukraine, ça serait catastrophique. Hein. En 2023, attention, le Parlement ukrainien adopte une loi qui permettrait attention, la restitution des droits des minorités. Viktor Orban là, joue un drôle de jeu au sein de l'Europe. Hein. Il est pro-russe, hein, bah, bien sûr, on vient de le dire. Et il est contre l'aide militaire à l'Ukraine. Il est aussi quasi contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Europe.
C'est vrai.
Hein. Il a même quitté le vote au Parlement pour ne pas avoir... l'erreur de dire non. Donc bon, il s'est entre guillemets abstenu. Et on assiste donc à une guerre de communication concernant la situation des minorités. Il y en a un qui dit que tout se passe bien, il y en a un qui dit que ça se passe pas bien. Alors, en réalité, ça se passe pas bien du tout. Si les gens quittent leur région, c'est qu'il y a quand même un sacré problème. Voilà.
Non mais c'est vrai.
Bon,
c'est vrai.
J'ai fait assez court, mais je voulais revenir là sur l'article.
Oui, puis tout ça, comme tu le disais, fait l'affaire des Russes, voilà. Évidemment, qui,
ah ben, bien sûr.
Qui profite de toutes ces divisions.
Ils jouent sur du velours. J'ai relu aussi « Moscou est-il l'aval de la Chine ?» qui a très bien présenté Henri, mais il a pas dit l'aide apportée par la Chine à la Russie, c'est peanuts. Quoi. Ouais. Hein, c'est des gilets par balles, des casques, de la céramique pour les systèmes de protection. Bon, des drones, mais des drones juste d'observation, les petits. Hein. Ouais. Voilà. C'est rien du tout. Par contre, il y a aussi un échange qui se fait au détriment des Russes. C'est que les Russes fournissent des matières premières. Je suis allé sur Internet. Hein, ouais. Et les Chinois, ils sont en train de coloniser par entreprise la Russie. Ouais. Et on sait toujours que... Ben, ce n'est pas celui qui dispose des matières premières qui est le maître du jeu, c'est celui qui dispose des moyens de transformation. Mmh. Et les Russes sont en train de se faire bouffer par les Chinois.
Et bien sûr, ouais.
Oui, et... ils n'ont pas les moyens de lutter, effectivement.
Non, mais quand on dit qu'il y a un partenariat, ce n'est pas vrai. Ouais. Ce n'est pas un partenariat, c'est une colonisation économique de la Chine. Ouais. Et les Chinois, bon, c'est tout bénef pour eux. Ils ont besoin de gaz, ils ont besoin de pétrole, bon, ils le trouvent.
Oui, bien sûr. Et puis, voilà. Non, mais c'est une histoire de... Enfin, pour l'instant... On en parlait aussi ici dans cette émission, c'est de rechercher ce qu'on appelle le Sud global. C'est-à-dire que c'était lancé par la Russie, la Chine, à un moment, le Brésil.
Et les BRICS, c'est ça ?
Les BRICS. Mais aujourd'hui, ils sont en train de s'ouvrir avec le G20, avec d'autres pays asiatiques. Et Pékin n'a juste pas envie que Moscou soit en tête de ce truc. Quoi,
non,
parce
bah,
que, alors que politiquement, c'est les Russes. En Afrique notamment, qui sont en train d'arriver. Les Chinois y étaient, ils faisaient du commerce. Politiquement, les Russes arrivent, avec Wagner notamment, militairement. Et les Chinois en ont peur. Donc, ils essaient de... Mais pour eux, c'est une affaire gagnant, comme tu dis. Une affaire gagnante. Hein.
C'est gagnant-gagnant. Mais on l'avait dit aussi, en Afrique, c'est les Américains qui commencent à s'implanter fermement. Hein.
Mais ils essayent.
Voilà.
Ils essayent. Au détriment de qui ?
De la France.
Mais oui, bah
de
oui. La France.
Mais voilà. Bah oui, bah bon, on a fait aussi des erreurs. C'est pour ça.
Tu crois ?
Ouais, bah, un petit peu quand
des
même.
Petites, voilà. Des petites.
Et des moyens limités quand même.
Non, mais bon, depuis qu'on a quitté le Mali, ça se passe très très mal hein, pour les populations là-bas.
Oui, oui.
Voilà. Ouais. Alors, là, c'est vrai qu'on a fait d'énormes erreurs.
Ils ont changé d'enfer et ils ont pris un enfer encore pire que le premier.
Ouais, c'est ça. C'est une catastrophe.
Effectivement.
Voilà, c'était très bel article avec des cartes aussi.
Il y a des cartes, il y a des cartes. Et ça vaut le coup. Hein.
Ça vaut le coup pour comprendre l'histoire comme tu
l'as. Ma mère est née en 1914 là-bas, alors que c'était l'Empire austro-hongrois. Hein, et elle disait qu'à l'école, on parlait du péril jaune. Ouais. Quand elle nous racontait. Ah oui. Et pour les populations là, en 1918-20, hein, elle est venue en France en 24, hein, ils avaient peur des Chinois. Là-bas, il y a... quasiment un siècle.
Pourtant, en 1914, la Chine, elle est complètement colonisée par les populations européennes.
Oui,
enfin,
oui, oui. Non, pendant deux siècles. Ouais, ouais. Mais juste avant, la moitié du commerce mondial se passait entre la Chine et le reste. Hein.
Ouais, ouais, bien
c'est
sûr.
La révolution industrielle et les Anglais, essentiellement, ont fait que la Chine a été mise sous tutelle des Occidentaux et des Américains parce que, bon, ils ont été colonisés. Ils n'avaient pas les moyens de lutter militairement.
Parce que nous, on avait développé une, ce qu'on a appelé la révolution industrielle. Les Chinois l'ont raté parce que les gisements de charbon étaient loin. Ils étaient au-delà du Yangtze-Kiang, donc ils étaient loin des centres de population. Et ils ont raté cette, ce développement économique qui fait qu'ils sont tombés sous la tutelle des démocraties.
Une dernière, petite question sur ta famille qui était en Ukraine. Ils sont comment maintenant vis-à-vis de l'Ukraine?
Il y en a un peu partout, hein. Surtout non, mais... en Galice, hein, c'est-à-dire à la frontière polonaise. Hein,
ils sont plutôt pro-Poutine dans ce conflit.
Non, ils sont tous contre Poutine.
D'accord.
Heureusement, autrement, je ne leur parlerai plus.
Bon, eh ben, tu les salueras de notre part. Voilà. Bon courage à ceux qui nous écoutent depuis l'Ukraine. C'est la fin de cette émission pour ce mardi. Merci à vous, les amis du Monde Diplo.
Merci à toi, Hassan.
Merci.
Bonsoir. Merci.
Au mois prochain, le deuxième mardi évidemment, à Orléans. L'équipe de Raidon est là cette semaine. Ils sont installés, ils vont démarrer tout de suite. Mais ils sont là.
T'as vu ça? On a bien compris qu'ils étaient là. Oui.
Ils sont là. Allez, je leur passe le micro.
Ah ben alors là, ça.
Parce qu'on est en retard, c'est peut-être pour ça.
C'est à vous.
Non, il est 59. Ouais. On n'a pas pu parler des sang noir.
Des gouttes de sang noir, ouais.
Ah là là,
sacré
Ukraine.
Raidon sur Radio Campus, est-ce qu'on vous entend? Ah ben oui, moi non plus, j'ai pas de.
Ah ça y est, là on a un peu de. On entend le micro là, c'est bon? Ah nickel. Eh ben écoute, bing, 20h pile.